matin à tous. Bienvenue au show du matin, édition du 15 décembre. Max, ça marche? Comment ça va?
Hey there, ça va vous autres?
Ben ouais. Max, on voulait jaser de baseball ce matin. C'est ton dernier show. Fait qu'on a fait un spécial pour inviter Anthony Marcotte pour m'accompagner puis poser plein de questions sur la Fédé puis tout, là. Fait que je pense que ça va être un excellent show. Tony, comment ça va?
Ouais.
Salut les boys, content de vous retrouver. Merci pour votre invitation, super cool.
Fait plaisir. J'avais envie de t'inviter. Je t'ai déjà reçu aux Agents libres. On a parlé de balle en masse, mais je pense que le monde connaît, ceux qui te connaissent pour ta voix du Rocket, pour ta voix à la radio 91.9. Puis j'avais envie que tu parles de baseball ce matin. C'est à la bonne place en plus, hein? Sur la page Facebook de BQ. Max qui est là en plus. Parle-moi un peu de ça, Tony. On va commencer de même direct. Parle-moi un peu de ça, ta passion de la balle. Tu m'as déjà dit que tu aimais les courses, que tu aimais le hockey, mais que la balle, ça prenait une place spéciale dans ta vie.
Oui, ben, le baseball, là, j'ai toujours aimé le baseball. Honnêtement, là, c'est juste que professionnellement, j'ai jamais eu l'occasion de travailler dans le baseball, mais pour aimer le sport, ça, c'est très, très élevé dans ma liste de mes sports favoris. C'est aussi la balle, le sport où j'excellais le plus quand j'étais plus jeune. Sans avoir été un grand athlète, ben, j'appréciais beaucoup jouer au baseball. J'ai lancé, joué au troisième but, j'ai toujours eu un bon bras. Malheureusement, un des regrets de ma vie, c'est d'avoir peut-être arrêté de jouer prématurément au baseball parce que j'aimais vraiment ça. J'ai commencé à travailler, puis avec le recul, je me dis, le travail, c'est bien, mais j'avais tellement de passion pour le baseball que je me demande si ça a été une bonne décision pour moi de commencer à travailler à 15 ans au lieu de continuer à jouer au baseball, puis avec mes chums et tout ça. Mais bon, pas de regret dans la vie, faudrait dire, semble-t-il. Mais ça me fatigue encore plusieurs années plus tard. Mais j'aime vraiment le sport, je suis ça encore de près. Puis évidemment, je milite très, très fort pour le retour d'un club à Montréal.
Hey Anthony, ce que tu viens d'amener comme sujet là, me fait rire un petit peu parce que c'est le grand défi qu'on a, puis qu'on avait là, 15, 20 ans, qu'on a toujours, où est-ce que le jeune arrive, puis là, il y a plein d'auditeurs, il y a plein de coachs, il y a plein d'entraîneurs qui t'ont entendu, là, puis qui vont entendre ce que je dis, mais on vit tout ce défi-là de garder nos jeunes rendus à cet âge-là, là, 14, 15, 16 ans dans le sport, parce que là, il y a des nouvelles activités, hein? Puis là, les gars et les filles commencent à se faire des blondes, des chums, veulent avoir de l'argent, veulent commencer à acheter, posséder des trucs, pouvoir sortir, aller au cinéma, ainsi de suite. Puis il y en a une grande partie bien, qui prennent justement la direction de OK, là, j'ai fait mon cheminement, j'ai fait mon bout de chemin, puis là, je me dirige vers la vie adulte, fait que je vais lâcher mon sport, puis mon Dieu, qu'il y en a qui regrettent ça. Puis c'est là le grand défi de dire, guys, il n'y a rien de stressant, il n'y a rien de pressant dans la vie, là. Prenez votre temps, restez des ados encore un bout, amusez-vous, apprenez à compétitionner. Anyway, là, jusqu'à 80 ans, vous allez avoir à travailler après. Fait que c'est un défi. Ce que tu viens de dire, là,
ah oui.
Des amis, il y a 15 ans, qui ont eu cette même réflexion-là, puis il y en a d'autres à venir aussi, là.
Ah, c'est clair. Puis moi, quand que. Je veux dire, c'est pas comme si j'avais absolument besoin de travailler ou manger, là, mettons. Là.
Ouais, c'est ça.
Il n'y avait pas de problème là, pour ça. Là. C'est juste que c'était moi, de mon propre chef, qui voulait avoir une paye, puis. Payer des cossins, puis sortir avec mes chums, mais au bout de la ligne, ouais. J'ai oublié l'essentiel que finalement, mes chums, je les voyais en jouer au baseball.
C'est ça
l'histoire.
En même temps, j'ai envie de vous relancer sur ça. C'est Max, tu as quand même été un collège américain au baseball, puis Tony, tu es rendu où ce que tu es rendu. Ta carrière est là parce que tu t'es impliqué là-dedans, que tu t'es investi là-dedans. Fait que tu as commencé, oui, tu as peut-être eu moins de fun quand tu étais jeune. Max, c'est un peu la même affaire. Toi, tu as continué à jouer à la balle, tu as tout le temps joué. Tu n'as pas nécessairement vécu le côté, ben, tu sais, je connais pas, là, mais tu as sûrement moins travaillé que quelqu'un qui n'a pas été au collège parce que justement, tu t'entraînais tout le temps, tu jouais au baseball tout le temps. Fait que tu n'avais pas une job de 40 heures à 15 ans. T'sais. Fait qu'il y a comme, quand tu t'investis, tu te rends à une certaine place aussi, puis il y a des choses que tu ne peux pas faire. Là. Un jeune dans la Ligue Jean-Valjean du Québec, ça n'a pas une jeunesse traditionnelle comme n'importe quel jeune non plus. Là,
non, tu sais, je l'ai vécu moi, puis tu sais, j'ai ces souvenirs-là. Évidemment, il faut que tu travailles l'été, tu n'as pas le choix à un certain moment parce que tu veux suivre aussi un rythme de vie d'un adolescent normal. Tu sais, c'est super s'entraîner, c'est super compétitionner, c'est super être au parc, arriver au parc à 2 h l'après-midi puis repartir de là à 2 h du matin. Mais tu sais, il y a une socialisation à faire avec tes amis, avec tes chums, avec tout ton monde. Fait que c'est là que le défi, puis tu sais, pour moi puis pour beaucoup d'autres jeunes aussi qui ont l'aspiration d'aller dans les collèges américains, ça reste quand même que d'avoir une belle bourse là, dans une université. Là. C'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir une petite carte là, de l'école qui dit « t'as passe dans la machine puis tu manges déjeuner, dîner, souper. » c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir l'Internet qui est payé dans leur résidence ou dans leur appart. Fait que tu as besoin à un certain moment de ramasser des sous. Puis c'est pas tout le monde qui a la possibilité d'avoir une famille qui peut payer l'extra des dépenses. Fait que il faut trouver un moyen pour essayer de manœuvrer à travers tout ça, à jouer au baseball, à s'entraîner, à pratiquer, puis à avoir une job qui va être... Tu sais, le défi là-dedans, là, c'est d'avoir le meilleur patron au monde qui comprend que le sport, c'est une priorité pour toi puis qui est capable d'arranger ton horaire autour de ça. Moi, j'ai eu cette chance-là, puis ça m'a sauvé. Là.
Ah oui, clairement. Tony, j'ai envie qu'on parle de toi un peu pour les gens qui ne te connaissent pas. Fais-nous un petit wrap-up là, de ta carrière, ce que tu fais actuellement, tes deux emplois à la radio puis avec le Rocket.
Oui, ben exact. Je décris les parties du Rocket de Laval à la radio. C'est ma 5e saison à l'antenne des parties du Rocket au 91.9. Puis au-delà de tout ça, là, qui s'ajoute à mes tâches finalement à la station de radio, c'est que oui, je fais les matchs à temps plein, mais pendant les congés de hockey, que ce soit dans le temps des fêtes ou bien l'été, ben on va me retrouver à Londres à l'occasion là, en remplacement dans les émissions, surtout le matin que j'ai fait au cours des dernières années. Donc, ça me permet autant de décrire des matchs, puis d'animer à la radio, puis de justement de partager ma passion pour le sport, parce qu'elle dépasse bien plus que simplement parler de hockey. Donc, l'été, je me retrouve dans une situation où on peut varier les horizons un peu, puis parler d'un paquet de choses. Donc, ça, j'apprécie ça grandement. Donc, c'est un métier qui me passionne, d'écrire du hockey, me promener un petit peu partout. J'ai plus de 800 matchs à mon actif depuis le début de ma carrière. Donc, je souhaite qu'il y en ait encore le double minimum. Je souhaite que ça continue.
Tu es aussi très impliqué dans le monde des courses. Ça, c'est un monde qui n'est pas nécessairement connu par tout le monde. Parle-nous donc de ça un peu, cette passion-là sort de où?
Oui, ben très jeune, en fait, mon père gravitait autour d'une équipe de course dont son grand ami courait, puis a couru pendant plusieurs années. Moi, je suis né là-dedans, alors que l'ami personnel de mon père était derrière le volant, sur la terre battue, et puis parcourait les circuits québécois, Drummondville, Green Bay. Et puis, de fil en aiguille, j'ai toujours gardé cette passion-là pour les courses, suivi les faits et gestes de Jacques Villeneuve, de Patrick Carpentier, d'Alex Tagliani. Donc, j'ai toujours suivi ça de près. Puis, à un moment donné, quand j'ai commencé à faire du hockey, ben le goût, justement, de m'impliquer dans les courses est revenu. Puis, je souhaitais avoir le micro aussi aux courses. Fait que c'est ce qui m'a permis, justement, là, que les portes s'ouvrent aux courses aussi. Puis, ça fait 13 ans maintenant que j'anime comme annonceur de course là, sur les circuits québécois. Donc, j'ai 3 circuits que je fais pendant l'été. Puis, de temps à autre, on m'invite sur certains circuits ailleurs aussi pour justement décrire les courses, annoncer des courses aux spectateurs. Donc, c'est bien plaisant. Je suis impliqué encore de plus que je ne l'ai jamais été, en fait. Porte-parole de l'Autodrome Grand Bay depuis quelques années. Je travaille de près là, avec les promoteurs de Grand Bay, entre autres, au niveau marketing, au niveau de la mise en marché, au niveau de faire connaître justement notre sport. Donc, ça, c'est vraiment plaisant. Puis, de fil en aiguille, moi et des amis, on a parti un site web qui s'appelle lesgodcourse.com. On couvre le sport, surtout la terre battue qui est peut-être un petit peu méconnue, mais on a beaucoup de plaisir avec ça. Là, on fait une émission télé web à chaque mardi soir qu'on transforme aussi en podcast là, pour les gens sur la route. Donc, beaucoup, beaucoup de plaisir.
Très le fun, hey, Max.
JF, laisse-moi poursuivre là-dessus deux secondes sur la course automobile parce que j'ai eu la chance quand je jouais justement au Collège américain en Floride et j'ai été au Daytona 500. Ça a été incroyable, je ne connaissais pas ça. Puis là, j'ai compris la culture du NASCAR, le fanatisme derrière ça. Tu sais, pour quelqu'un qui arrive de l'extérieur, le voir des voitures tourner en rond, là, ça a son bout de chemin. Puis tu sais, je ne suis pas de cette culture-là. À la base, je ne connaissais pas ça. Tu sais, j'ai suivi Jacques Villeneuve, puis j'ai regardé un petit peu ce qui s'est passé avec la Formule 1. Mais quand j'ai découvert le fanatisme, puis d'arriver sur le site et voir tout ce qu'il y avait autour d'un Grand Prix ou d'une course NASCAR, c'est incroyable. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Ça m'a vraiment fasciné. Puis la deuxième chose, c'est que on pourrait parler de la Formule 1 puis ce qui se passe. Puis dans toute l'étude qu'on a faite dans les dernières années de la refonte de la haute performance, le mot haute performance revient souvent dans notre langage, le haut niveau. Et j'ai depuis peut-être 6-7 mois passé énormément de temps à regarder ce que Toto Wolff de Mercedes et Christian Horner de Red Bull, puis il y a eu un gros dénouement en fin de semaine dans la course, dans la saison de Formule 1, mais faisaient avec leur équipe, avec leur travail, comment ils manœuvraient. Et c'est un monde fascinant et je suggère à tout le monde, si vous êtes capable de fouiller, de voir et de lire sur la Formule 1, sur la course automobile, puis sur les équipes derrière une voiture, derrière un pilote, c'est incroyable.
Oui, puis pour ajouter à ça, Max, T'sais, l'émission Drive to Survive sur Netflix est excellente, pas simplement pour la F1, je pense que pour l'ensemble de la course automobile en général, c'est très, très bon, cette émission-là, pour l'ensemble de l'œuvre. Puis c'est sûr que la prochaine sortie, là, au printemps prochain de la saison 4 de Drive to Survive, il va y avoir un intérêt absolument démentiel pour ça, avec tout ce qui s'est passé dans le championnat du monde. C'est très, très bien parce qu'on va dans l'envers du décor de connaître la réalité de ce qui est mené une équipe de course. Tu as parlé de Toto Wolff puis de Christian Horner. Ben, évidemment, ce sont les têtes dirigeantes de Mercedes et de Red Bull, ces gars-là. D'habitude, tu n'entends jamais parler les chefs d'équipe, les ingénieurs, mais Drive to Survive nous permet de les connaître, puis ils deviennent des vedettes instantanées à cause de ça. Des gars qui ont une forte personnalité, surtout Horner. Donc ça, c'est super, super le fun. J'espère que NASCAR va emboîter le pas. Je ne sais pas ce qu'on attend, là, parce que ça fait 4 ans, puis le taux de popularité de la F1 ne cesse de grimper, surtout aux États-Unis, à cause de la série.
Ouais. Est-ce que les autres sports, selon toi, tu sais, le baseball gagnerait à faire ce même genre de choses-là? Puis le hockey le font déjà avec certaines émissions, mais tu sais, tous les sports devraient le faire. Le football le font aussi, le baseball le font peut-être pas, là, mais je pense que c'est ça amène tellement quelque chose de spectaculaire que.
Ben, le documentaire sportif actuellement est en train de revenir vraiment à la mode. Je pense que The Last Dance également sur Netflix au sujet de Michael Jordan a été excellent aussi. Puis avec toutes les plateformes de diffusion, que ce soit Netflix, Amazon Prime, Crave, Hulu aux États-Unis, t'en as un paquet, ben je pense que là, il y a une offre, puis on se rend compte que le sport nous permet de raconter de belles histoires, des histoires captivantes, puis suivre une équipe dans le quotidien, c'est vraiment quelque chose que le partisan moyen n'a pas accès. Et ça, je pense que ça a une plus-value à offrir. Moi, je pense qu'il va y en avoir plus en plus parce que on s'arrache chez les diffuseurs, justement, des opportunités comme celle-là. Parce que ça, là, au cours des 10 prochaines années, le documentaire sportif va prendre beaucoup, beaucoup de place dans le paysage.
Ouais, je suis d'accord avec toi, Anthony. Puis, tu sais, ce qu'il faut se souvenir aussi, c'est que tout le sport, la compétition, vient autour de l'émotion, autour de l'espoir. Puis, trop souvent, il gagne tant d'argent à prendre la place. Et quand on est capable d'aller montrer tout ce que l'athlète doit faire en arrière, là, behind the scene, pour rester au sommet de son art, ça change toute la perspective. Puis on est capable de se reconnecter après ça avec nos émotions puis notre passion en lien avec le sport. Fait que je suis d'avis avec toi que ça va arriver encore plus. Puis tu sais, par plein de petits gestes, je regarde MLB durant la saison quand il décide de mettre un micro à Mike Trout qui est dans le champ centre puis échanger avec lui puis parler avec lui. Toutes ces petites affaires-là qui sortent de juste la game du millionnaire qui frappe la balle ou du millionnaire qui a un bon slap shot ou du millionnaire qui tombe et qui roule pendant une demi-heure pour aller chercher un carton jaune. Un coup qu'on sort de tout ça puis qu'on va reconnecter avec les émotions, ben c'est exceptionnel, là.
J'ai envie de t'entendre, Tony, parce que tantôt, Max, tu as parlé de réforme dans la haute performance. Ce que tu viens de parler aussi, je trouve ça super intéressant. Mais toi, en étant dans la Ligue américaine, en côtoyant les joueurs de hockey de la Ligue junior majeure du Québec à une certaine époque aussi, tu vois les gars, tu sais, l'importance, il y en a que ça va être l'école, il y en a qui vont arriver dans la Ligue américaine, qui vont décider peut-être de mettre leur carrière en veilleuse pour continuer l'école, il y en a qui vont aller à l'Université de Trois-Rivières ou dans d'autres universités. C'est quoi ta vision des choses, de la haute performance, justement, puis de tout ce qui est multisport et le scolaire, là? Tu sais, justement, tu côtoies tellement différentes personnes.
Oui, ben écoute, c'est sur plein de facettes la question. Personnellement, depuis que j'ai commencé à faire ça dans les rangs juniors, j'ai décrit du hockey pour 4 équipes différentes dans le junior majeur. Je constate évidemment une énorme différence dans l'approche des choses, dans la préparation, dans la condition physique des joueurs. Est-ce que c'est trop? Peut-être. J'ai l'impression que les jeunes décrochent plus ou moins parce qu'ils font leur sport à 150% dorénavant. Les périodes de repos sont très petite au cours de la saison. Il y a la pause de Noël et puis par la suite, la pause de l'été. Mais si on parle que du hockey, je veux dire, les gars sont tellement en forme que ça devrait même plus s'appeler un camp d'entraînement. C'est un camp de préparation parce que les gars sont en forme. Là. Vraiment, là, on lève plus le pied comme ça a déjà été pendant de nombreuses années. Puis j'en parle souvent avec Gilbert Delorme, mon collègue. Gilbert, qui prend un soin jaloux de sa condition physique, ben lui, c'était l'exception à la règle. Les gars se mettaient en forme au camp d'entraînement. C'est plus le cas aujourd'hui. La nutrition, c'est rendu très, très différent que ça a déjà été. Moi, quand j'ai commencé, c'était pas rare de la pizza dans les autobus de hockey junior. Maintenant, la pizza, c'est pour gâter les joueurs après un voyage, à la fin d'un voyage. Tu mangeras pas de la pizza le vendredi quand tu as déplacé pour un autre match le lendemain. Alors, c'est un paquet de petites choses qui s'additionnent au fil du temps, mais qui ont métamorphosé un petit peu la préparation de l'athlète, de l'athlète pendant la tenue de leur sport.
Oui, puis j'avais en tête, tu sais, il y a un joueur justement du Rocket, je pense que c'est l'année dernière, pendant la pandémie, qui a décidé d'arrêter de jouer au hockey pour
ouais, c'est Alexandre Alain.
Exact.
Ouais.
J'avais juste Alex Bézil, mais je savais que c'est pas lui, là. Mais exact, c'est ça. Fait que, tu sais, des décisions comme ça, tu vois pas ça dans la Ligue nationale, tu vois ça dans la Ligue américaine parce que la carrière, c'est pas un mauvais joueur, là, Alexandre Alain. Fait que, c'est quand même une autre mentalité. Puis lundi, Max, on a reçu un joueur, un ancien de l'ABC, justement, puis Zachary Gagnon. Puis moi, il m'a tellement impressionné par sa discipline de réussir à l'école. Puis, tu sais, s'il n'est pas repêché cette année, ben écoute, il fera un doctorat, puis il va continuer à l'école. Puis, tu sais, moi, ça m'impressionne parce qu'à cet âge-là, et que j'étais pas là dans ma tête, là, de dire, ouais, être aussi discipliné. Puis, tu sais, clairement, un athlète comme ça, il est rendu là parce qu'il est comme ça. T'sais.
Mais, tu sais, Jean-François, il y a un bout aussi, il y a une philosophie qui a changé avec les années. Tu sais, si je reviens au début des années 2000, quand moi, je suis allé au collège, là. T'sais, notre intention là, en allant au collège, c'était de prendre un chemin qui allait nous permettre d'être repêchés, de signer comme agent libre pour aller jouer dans le baseball professionnel et peut-être aller jouer dans les ligues majeures. Maintenant, c'est pas ça. Maintenant, c'est on aligne notre carrière. Oui, nos joueurs ont du talent, nos joueurs sont des espoirs, sont capables de se rendre à un autre niveau, mais quand ils décident de partir vers les États-Unis, ils ont un plan académiques, ils ont une idée de ce qu'ils vont faire. Et si, par chance, il y a un recruteur qui décide de les signer, de les repêcher, bien, c'est comme tant mieux, c'est un extra. Mais le mindset, quand ils quittent le Québec maintenant, nos athlètes, n'est pas le même que pour nous dans le début des années 2000. Nous autres, c'était vraiment juste... Puis tu sais, je me souviens, un des regrets que j'ai, c'est de ne pas avoir pris l'école au sérieux quand j'étais aux États-Unis, d'avoir pris des cours de préparation au lieu de m'aligner vraiment dans quelque chose et me dire, je vais sortir de là avec un diplôme. Mais maintenant, nos jeunes ne vont plus là avec cette intention-là. Ils vont là pour, OK, je vais être sérieux à l'école, je vais faire mes choses comme du monde, parce qu'ils ont appris dans leur cheminement à travers le sport-études, à travers la nouvelle société que c'est une priorité. Et hey, si j'ai une chance comme Zach, si j'ai une chance finalement d'être repêché puis de me faire offrir un montant d'argent, je vais l'apprendre, je vais aller jouer au baseball pro, mais le mindset est complètement différent, puis c'est tant mieux comme ça. Là.
Ben oui, vraiment, vraiment. Moi, ça m'a impressionné. Puis il y en a qui sont plus impressionnants dans leur façon de faire, sont tout le temps les premiers dans le gym, les meilleurs à l'école. Puis, tu sais, en tout cas, moi, ça m'impressionne big time. Max, c'est ta dernière présence au show en 2021. J'ai envie de t'entendre, j'ai envie de te laisser parler aux gens pour une dernière fois en 2021, justement.
Ben, écoutez, ça a été toute une année, hein? On a eu une deuxième année de pandémie, on a eu des grands défis devant nous, puis je suis pas mal fier de ce qu'on était capable d'accomplir. Je ferai pas un bilan aujourd'hui de tout ce qui a été fait en 2021 parce qu'il y en a encore tellement à accomplir, mais je suis quand même assez content ou fier de pouvoir, tu sais, dire un gros merci à tout le monde. Vous savez, on a vécu une deuxième année sous le signe de, comment je pourrais dire ça, de l'inconnu, encore une fois, malgré le fait qu'on avait passé à travers une pandémie, le système était tout différent cette année, encore dans une deuxième suite. Fait qu'on savait, est-ce qu'on savait qu'on allait jouer au baseball? Oui, on savait qu'on allait jouer au baseball. Est-ce qu'on savait quand on allait commencer? Non, on n'allait pas le savoir. Puis ça, ce que ça demandait, bien, ça demandait beaucoup, beaucoup d'agilité à nos bénévoles, beaucoup d'agilité à nos administrateurs qui devaient regarder la situation, puis à partir de la situation, dire OK, bien là, il faut vite se retourner sur un 10 cents parce qu'on commence demain. Puis quand on était, je ne sais pas, Jean-François, si tu t'en souviens, mais quand on était au mois de mai, au mois de juin, puis qu'on faisait les mises à jour ensemble, je disais toujours à notre gang, guys, remerciez vos bénévoles, remerciez les gens avec qui vous travaillez, parce qu'aujourd'hui, au lieu d'avoir fait leur équipe voilà un mois, au lieu d'avoir préparé les horaires, ils sont en train de faire leur camp d'entraînement, ils sont en train de faire la remise en forme de leurs joueurs, leurs joueuses, sont en train de permettre à leurs athlètes de reconnecter entre eux parce qu'on a encore vécu des lockdowns, on a encore vécu plein de situations difficiles, sont en train de bâtir des calendriers, sont en train de faire des sélections d'équipes, puis après ça, ils sont en train de se préparer pour leur saison. Fait que ça a été quand même assez exceptionnel ce qui s'est fait. Je me croise les doigts pour que l'année prochaine, ça soit encore un peu plus simple, qu'on retourne un peu plus vers la normale. Je pense que ce sera le cas. Évidemment, l'hiver, c'est toujours différent. Puis nous, on est chanceux. Notre sport, c'est l'été. Fait que tu sais, j'avais envie de lancer un gros merci à tout le monde. De l'autre côté, la fin d'année, c'est aussi pour nous un moment où est-ce qu'on commence, où on finalise tous nos projets pour l'année qui s'en vient. La semaine dernière, on a commencé à présenter à nos membres, aux organisations 2A, aux présidents, présidentes de région, les plans qu'on a pour le baseball de haut niveau, mais le haut niveau, pas juste à la pointe des espoirs, mais aussi au niveau du 15U, au niveau du 13U dans le 2A. Qu'est-ce qui s'en vient? Fait que vous allez pouvoir bientôt voir passer sur les médias sociaux notre manifeste un peu qui lance un peu toute l'idée qu'on a de comment devrait être le baseball d'un haut niveau dans les 5, 10, 15 prochaines années. Il y a des belles choses qui s'en viennent aussi pour le baseball féminin. On a là aussi un plan pour le haut niveau puis qui va descendre jusqu'en bas. L'année passée, on a lancé la Ligue de baseball féminin du Québec et il y a une suite à tout ça. Fait qu'on est tout en train de finir ça et le grand défi pour le retour des vacances, bien, ça va être de bien communiquer à nos membres tout ce qu'on fait. Vous savez, dans une fédération ou dans n'importe quelle organisation, on a des gens qui sont innovateurs, qui sont toujours prêts à amener du changement. On a des gens qui sont prêts à suivre ces changements-là. On en a qui sont des fois un peu plus réticents, qui ont besoin de se laisser séduire, ils ont besoin de se laisser convaincre. Puis après ça, ben, on en a une gang qui, si le téléphone à roulette existait encore aujourd'hui, ben, il en aurait tout un à la maison. Donc, le défi, ça va être de travailler et de bien communiquer à tous nos mondes pourquoi qu'on amène des changements. Ben, c'est pour le bien de nos jeunes, c'est le bien de nos athlètes, les jeunes filles, les jeunes garçons, pour les garder dans notre sport. Mais on va avoir beaucoup de communication parce qu'il y a beaucoup de beaux projets qui s'en viennent. Et finalement, ben, j'ai eu la chance de me sauver dans le fin fond des bois pendant 2 jours, lundi et mardi. C'est pour ça que ma barbe a commencé à pousser quand je suis parti. Je n'avais pas de barbe. Et j'étais tout seul, sans communication, rien. Et j'ai retravaillé notre plan stratégique que je vais par la suite poursuivre avec notre équipe et notre conseil d'administration. Mais tu sais, pour l'ajuster à la nouvelle réalité, on n'arrête pas de dire que la pandémie aura laissé des traces, mais elle a laissé des traces partout. Mm-hmm. Puis elle nous a aussi ouvert les yeux sur le fait que le baseball, là, on n'est pas juste des organisateurs de games de baseball ou de parties. On est là pour connecter nos jeunes ensemble. On est là pour les faire socialiser. On est là pour leur montrer des belles habiletés, des belles compétences de vie qui vont leur servir quand ils vont être plus vieux. Puis je pense que notre plan stratégique a besoin de parler un petit peu plus de toute cette histoire-là derrière nos games de baseball qu'on organise, derrière nos pratiques qu'on organise. Fait que ça a été du beau travail. Fait que une fin d'année assez intense qui va mener à un début d'année exceptionnel.
Oui, tout à fait. Tony, Max qui vient de parler un peu tout ce qui est la fédé puis amener les jeunes, c'est quand même gros parce que souvent, Max, tu l'as dit tantôt, oui, on s'occupe de la réforme de l'élite, mais on s'occupe de la base aussi, puis c'est aussi important de les amener à ce niveau-là. C'est quoi l'évolution que tu as vue, toi, Tony, mettons au niveau du hockey ou dans le sport, parce que justement, tu vois beaucoup de sport, mais l'évolution du sport dans les dernières années, tu sais, le hockey féminin, le baseball féminin, le volley féminin, en fait, dans tous les sports, devient de plus en plus populaire, prend de plus en plus place avec raison et au grand bonheur de tous, je l'espère. Mais c'est quoi ta vision d'évolution du sport présentement qui est plus non professionnel?
Ben, le volley féminin, super intéressant. Moi, écoute, je viens d'avoir une petite fille, donc c'est sûr que ça m'interpelle. J'ai hâte de voir, tu sais, si ma petite Béatrice va devenir une sportive. Puis moi, je pense que quand elle le deviendra éventuellement, dans 10, 12 ans d'ici, ben peut-être que le milieu sportif va être métamorphosé, qu'il y aura encore plus de place pour les jeunes filles. Tant mieux, c'est une super nouvelle. Qu'elles aient davantage accès à du sport compétitif, qu'on les mette davantage en valeur. Parce que ça, c'est peut-être le maillon faible. De leur donner l'occasion, c'est une chose. Qu'elles puissent briller avec ça, c'en est une autre. Moi, je pense que la notoriété du sport féminin, il y a encore une grosse marge à franchir partout dans les médias, de leur accorder la place qu'elles méritent peut-être. Ça vient avec le temps, mais faut que je pense que tout le monde fasse son petit effort à ce niveau-là. Moi, je pense que ça, c'est en train de changer. Les femmes prennent de plus en plus de place. Ça, c'est dans l'air du temps présentement. Puis je pense pas que ça va changer de côté. Je pense pas que ce vent-là va changer de côté prochainement, du moins. Puis tant mieux pour ma petite. Ça va être extraordinaire, ça. Ça va être super. Je le souhaite vraiment qu'elle soit sportive puis qu'elle puisse découvrir ce que peut apporter à quelqu'un le sport. Moi, ça m'a tellement apporté. Mes meilleurs chums, je les ai faits en faisant du sport. Puis encore aujourd'hui, je joue au golf. Ben, ça me permet de renouer avec des gars avec qui j'ai joué au hockey plus jeune ou joué à balle. Tu sais, c'est super extra, c'est super. Puis moi, j'ai choisi mon école secondaire parce qu'on me donnait accès à faire du sport à tous les jours. Ben, ça, j'espère que ça ne changera jamais. Et j'espère que ma fille, ben, elle va avoir accès un petit peu à moi, ce que j'ai eu la chance d'avoir plus jeune. Alors ça, je pense que c'est une révolution, puis les jeunes femmes vont en profiter, c'est sûr.
Oui, tout à fait. J'ai envie de vous entendre rapidement, parce que le show achève, là, puis j'ai deux personnes. Justement, Max est impliqué un peu dans le dossier de mémoire, là. Mais Stéphane Bronfman a fait une sortie hier sur le retour des expos. J'ai envie de vous entendre les deux. Je vais commencer avec Tony.
Oui, bien écoute, M. Bronfman ne nous a pas annoncé tellement de choses hier. Garde quand même des choses là dans le calepin avant de le dévoiler. Il parlait d'une conférence de presse prochainement. Il n'a pas donné de date. Moi, je pense qu'au début 2022, il va y avoir une conférence de presse pour nous parler un petit peu concrètement d'où on se dirige avec le projet dans le bassin Peel. Mais pour ceux qui pensaient que M. Bronfman avait levé le pied dans ce projet-là avec la pandémie, c'est loin d'être le cas. Là, on continue de travailler très, très fort. Et de toute façon, la garde partagée avec les Rays n'est pas possible avant 2027 au terme du bail de location à Saint-Pétersbourg. Donc, je pense que en tout et partout, M. Bronfman maintient le cap. On le savait que c'est un projet à plus long terme que ce que ça laissait transparaître la première fois qu'on a parlé de cette possibilité d'union avec Tampa Bay. Donc, on continue le travail en coulisses. Moi, je sens par contre que ce soit la Ville de Montréal ou les différents paliers de gouvernement, on va être extrêmement frileux de s'impliquer dans le retour du baseball à Montréal financièrement. On va sûrement donner des moyens à M. Bronfman de s'installer, mais la contribution du payeur de taxes sera négligeable dans ce dossier-là. Donc, on va voir comment ça va évoluer, mais c'est sûr que je suis en faveur de d'un projet comme celui-là, parce qu'on parle de vraiment dynamiser tout un quartier avec un stand, mais avec également tout ce qui vient autour, un parc, construction de paquets de boutiques, restaurants, etc. Donc, ça pourrait dynamiser tout un quartier pour Montréal, et je pense pas que la mairesse Plante va se priver de ça.
Effectivement. Max?
Écoutez, j'ai trouvé les dernières semaines assez difficiles parce que j'ai vu et j'ai entendu tellement de monde dénigrer ce projet-là. Puis une des choses qui me dérange là-dedans, puis j'étais un peu en accord avec le texte de Mario Dumont, c'est-à-dire que si on avait des gens dans d'autres domaines qui disaient « on va prendre tous ces millions, des centaines de millions de dollars de nos poches pour l'investir dans un projet X, Y, Z », on ne bâcherait pas sur ce projet-là. Fait que j'ai un peu cette frustration-là. Puis ce qui me dérange le plus là-dedans, c'est que tu sais, un projet de baseball comme celui du retour d'une équipe, la MLB à Montréal, là, on n'arrête pas de parler d'argent présentement. On n'arrête pas de parler de prêts pardonnables, de subventions, de M. Bronfman, il est milliardaire, pas besoin de ci, pas besoin de ça. On ne parle pas de l'essentiel. L'essentiel, c'est une équipe de baseball à Montréal. Qu'est-ce que ça peut amener sur la communauté? Qu'est-ce que ça peut amener dans les milieux défavorisés? Qu'est-ce que ça peut amener aussi sur la popularité du baseball, donc du sport amateur, donc de la prévention en amenant des jeunes à jouer peut-être encore plus au baseball? Qu'est-ce que ça peut amener d'avoir des modèles de la MLB dans une ville puis de les rendre accessibles à des milliers d'enfants? Qu'est-ce que ça pourrait faire d'avoir une équipe de la MLB avec des joueurs qui se présentent dans les écoles primaires puis qui vont inspirer des jeunes? On ne parle jamais de tout ça présentement. Présentement, l'argumentaire est tout autour des finances, tout autour de qui va payer quoi. Je comprends que le gouvernement doit se pader, le gouvernement doit s'assurer de ne pas faire de chèque en blanc. Il y a l'histoire qui nous raconte qu'on ne peut plus faire ça. Mais à un certain moment, je pense qu'il faut aussi prendre en considération les impacts que ce projet-là pourrait avoir sur la communauté puis sur la province, sur l'ensemble du territoire et non juste sur un quartier. Et ça, c'est ce qui me désole là-dedans. Et j'espère qu'au retour des fêtes, on sera capable d'avoir la discussion. J'ai eu la chance la semaine dernière de parler avec Éric Brunel du pôle sport de HEC Montréal. J'avais la discussion avec lui. Je dirais qu'il y a-t-il des études qui peuvent démontrer l'impact que le sport professionnel peut avoir sur une ville, sur une province ou un État ou un pays? Éric me dit, il y en a tellement. Fait qu'on va fouiller là-dedans, là, mais je pense qu'il est temps qu'on ajuste notre discours et qu'on soit capable de parler de tous les impacts positifs qu'il peut avoir, que le projet pourrait avoir sur la grande communauté du Québec.
Tu sais, il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis, Max, puis je veux dire, on a tristement vécu le départ des Nordiques de Québec, puis le départ des Expos 95 et 2004, qui sont pour moi des moments très tristes de l'histoire sportive du Québec. Et là, on a une occasion en or de ramener une équipe avec un projet qui est concret, qui est appuyé par le baseball majeur, qui est appuyé par ça à Tampa Bay. Même chose ici du côté de Montréal avec un propriétaire qui souhaite s'impliquer pour ramener le baseball ici. C'est une opportunité extraordinaire parce qu'éventuellement, je pense que le club, il va être à 100% à Montréal tôt ou tard. Ça, c'est mon avis. Mais pour ça, il va falloir peut-être ouvrir la porte à ce que ça se produise. Juste le cas des Nordiques, pour moi, est carrément extraordinaire parce que on a laissé partir un club dont la valeur a plus que quadruplé en même pas 30 ans. On a manqué de vision. Le nouveau Colisée aurait dû être construit dans ces années-là. Il serait pas à court de vie aujourd'hui. Il y a plein de générations qui auraient pu profiter d'un nouveau Colisée à Québec. Et au lieu de tout ça, on a laissé partir le club, puis on a laissé pourrir le vieux Colisée pendant des années avant de se rendre compte, au moins finalement, ça va prendre une nouvelle infrastructure sportive à Québec. On a construit le centre Vidéotron, tant mieux, mais la fenêtre était déjà fermée à ce moment-là pour amener une équipe. Donc, pendant une espace de quelques années, on a échappé la possibilité d'amener un club de la Ligue nationale. Et là, je comprends, là, les paliers du gouvernement ne veulent pas s'investir. Ils font un chèque en blanc pour Québec dans un centre Vidéotron qui est vide. Alors, c'est ça qui me gosse dans tout ça, qui me frustre, parce que je sais très bien qu'à Québec, pour avoir parcouru un petit peu les autres villes canadiennes, pour moi, c'est impensable que Québec n'ait pas un club de la Ligue nationale, alors que Winnipeg en a un, qu'Edmonton en a un, que Calgary en a un. Je veux dire, ces villes-là n'ont absolument rien envie à Québec. Québec mériterait autant que celle-là de se retrouver avec un club. Puis Montréal, je m'excuse, la grosseur du marché, c'est pas normal qu'il y ait seulement le Canadien de Montréal et le CF Montréal en ville. On a le marché pour avoir au moins une troisième concession majeure en ville.
Absolument, absolument.
Absolument. c'est bien dit.
Puis les gars, là, je vous le fais, là, Martin enregistre ce moment-là. Là, si jamais le retour du baseball de Montréal se produit, là, ça va être par un geste très, très, très courageux contre vent et marée, contre protestation. Et après ça, là, il va y avoir un play ball. Puis après ça, tout le monde va se retrouver dans un stade de balle. Puis on va être vraiment fiers de ce qu'on a accompli pour la ville de Montréal puis pour notre province.
C'est bien dit, c'est bien dit. Un petit rappel qu'on est disponible sur Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts et tout bon podcatcher. Les entrevues sont disponibles à partir de midi la journée même. Messieurs, merci beaucoup pour ce matin. Merci à ceux qui sont à l'écoute, comme tous les lundis, mercredis, vendredis. Tony, rappelle-moi un peu site web où on peut t'écouter pour ton site de course.
Oui, ben c'est lesgodcourses.com pour suivre l'actualité des courses sur terre battue du Québec. On va s'amuser également à couvrir ailleurs sur la scène de la course automobile. On a également notre page Facebook des Gars de course, qui est également un médium super intéressant pour nous autres de communiquer avec les gens. Puis évidemment, pour ceux qui souhaitent me suivre, ben c'est au 80 Roses de Sport que ça se passe pour la saison du Rocket. Une saison qui va nous amener jusqu'à la fin avril. On va souhaiter des séries éliminatoires cette année pour faire oublier un peu la saison catastrophique du Canadien. Si au moins le club école est capable d'en donner plus, mais peut-être que l'attention va se déplacer un petit peu plus sur Laval.
Avec plaisir. Max, un gros merci encore. C'était ta dernière cette année. On se revoit en 2022.
Absolument. Laisse-moi profiter souhaiter un joyeux temps des fêtes à tous. Reposez-vous bien, profitez de la vie. On sait, encore une fois, on va vivre peut-être un temps des fêtes avec de l'inconnu, avec des règles en place, mais c'est le temps de se reposer. Puis surtout pour les passionnés de baseball, parce que 2022 va être encore une grande année pour notre sport.
Effectivement. Merci beaucoup, messieurs. Merci à ceux qui sont présents encore ce matin. On se revoit très bientôt. Salut.
Salut, JF.
Bye-bye. Bye.
De la famille H2O Web Media.